Chapitre 12. 2 heures plus tard, le banquet s'acheva sur une farandole de dessert suivie d'une dégustation d'alcool fort. Fatigué, Nietzsche leva les yeux vers le plafond à ciel ouvert où des papillons de nuit tournaient autour des ceps de vigne. Au firmament, des milliers d'étoiles brillaient intensément. Après le plat principal, le haut capitaine Avery se servit une assiette de douceur, puis vint la savourer à côté de Thora. La sovereigna se détendit et alla même jusqu'à rire des remarques de son compagnon. Même s'il s'était généreusement servi, elle partagea ses gâteaux avec lui. « La loyauté et la bravoure du capitaine sont dignes d'éloges, et sa force !» La sovereigna soupira. « Avery est hautement compétent et entièrement dévoué à Ildakar. » « Et à sa superbe sovereigna !» ajouta Maxime non sans ironie. Face à la relation de sa femme avec l'officier, il faisait montre d'une bienveillance qui dissimulait sans doute pas mal d'amertume. « Il est sûrement plus compétent que tu l'as été ces derniers siècles, mon cher époux. »« Compétent, je le suis toujours, très cher. C'est la motivation qui n'est plus là. » Thora eut une grimace dédaigneuse. « En ce qui te concerne, en tout cas, » précisa Maxime en s'adossant à son siège. « Mais ça peut changer, disons, dans un millier d'années. » Le temps que tu te sois lassé de toutes les autres femmes d'Ildakar. Voilà qui semble peu probable. Comment pourrais-je oublier que tu es mon épouse et ma bien-aimée? Voyons, regarde-toi. Où trouverais-je une beauté pareille? Maxime but une gorgée de vin et ajouta. Une beauté extérieure, je veux dire. Thora tapota la main du capitaine, qui semblait très gêné d'être pris entre deux feux. Pour se donner une contenance, il ajusta son épaulière rouge. Après avoir levé le coude, les 6 membres du conseil bavardaient joyeusement. Nathan lui-même se révélait inépuisable, hésitant parfois sur un mot ou l'autre. Son gobelet dans la main gauche, Maxime se leva et vint se placer derrière le siège de Nietzsche. Dans son regard, la magicienne, au passage, vit quelque chose qui lui déplut profondément. Aussitôt, elle fut sur ses gardes. Dans sa vie, beaucoup d'hommes s'étaient servis d'elle sans qu'on puisse parler d'amour. Quand elle était la maîtresse de la mort, Jagang avait fait d'elle son jouet. Avant, elle avait dû servir sous les tentes, comme on disait alors pudiquement. Maxime se pencha vers elle. Au cours de longs siècles de paix, les nobles détenteurs du don d'Ildakar ont eu tout loisir de développer leurs compétences en matière de plaisir charnel. Il se pencha un peu plus. Nos techniques, j'ose le dire, sont inconnues dans le monde extérieur. De quoi être très fier, en effet? Et si tu les mobilisais pour satisfaire ta femme? Le sorcier en chef s'esclaffa. Satisfaire Thora? C'est mission impossible. Va donc en parler à tous les hommes qu'elle a rejetés. Non, interroge le capitaine Avery plutôt. Je me demande comment il se débrouille. Une affaire de talent et de virilité naturelle, lâcha Thora, glaciale. Des gloussements saluèrent cette saillie. Contrairement au sorcier, Nietzsche ne trouva pas ça drôle, mais elle remarqua que Maxime semblait s'en ficher comme d'une guigne. Tu ne me rendras pas jaloux, mon épouse, parce que notre arrangement me convient aussi bien qu'à toi. Maxime se pencha tellement que Nietzsche sentit son haleine aviner. Je dois t'informer d'une tradition spécifique de nos grandes soirées. Les nobles détenteurs du don se joignent souvent à des parties de plaisir, grandes ou petites, mais toujours très intimes. Bien entendu, tu as noté la taille de cette villa. On y trouve d'innombrables chambres, des sols couverts de coussins et de fascinants hamacs. Les possibilités ne sont pas infinies, mais... j'estime que nous ne les avons pas toutes explorées, même en 1500 ans. Si tu te joignais à nous, je serais très honoré. Laisse-moi te conduire au summum de l'extase. Crois-moi, nous sommes des maîtres en la matière. » Nietzsche tourna la tête et croisa le regard du séducteur. Sans reculer ni tressaillir, elle ne le gratifia d'aucun signe encourageant. « Je crois que je vais décliner ton offre. » En matière de technique, je ne suis pas en reste, mais on peut difficilement parler d'extase. Maxime gloussa bêtement. Je vois ce que tu veux dire. Certains êtres adorent recevoir ou donner de la souffrance. C'est une forme différente de plaisir, bien qu'on la tienne généralement pour une composante de la sexualité. Sous le regard des six conseillers, Nietzsche resta de marbre. Tu m'as mal comprise. Je n'ai pas l'intention de participer à vos divertissements. Point final.
Mais nous apprécions l'attention, dit Nathan, soucieux d'arrondir les angles. Par le passé, je dois l'avouer, Nietzsche a été souvent maltraité, et j'ai peur que ça ait faussé sa perception de ce qu'on nomme plaisir. Mais si cette invitation est importante pour vous et tient de la tradition, je puis envisager de la remplacer. Après tout, je suis l'ambassadeur itinérant de Dara.
Des murmures coururent autour de la table et Elsa sembla embarrassée pour Nathan, dont elle tapota gentiment la main.
Merci de ta bonne volonté, Nathan, mais il y a un problème. Nos divertissements sont réservés aux détenteurs du don.
Le sorcier de chair André brisa le long silence qui suivit.
De ton propre aveu, tu as perdu le tien. Tant qu'il en sera ainsi, nous t'accepterons en ville, mais les fêtes du plaisir te seront interdites.
Après une brève réflexion, Elsa ajouta:
Une tradition nous permet d'inviter des gens de l'extérieur dans des circonstances bien précises. Cette situation entre-t-elle dans ce cadre?
Nathan Rahl, réfléchis bien, intervint Thora. Ton infortune est-elle contagieuse? En particulier en cas de contact intime?
Je garantis que ce n'est pas le cas.
Certes, badina Ivan.
Mais est-il encore capable de faire se lever son bâton de sorcier?
Sous les éclats de rire, Nathan, pas du tout du genre à se troubler aisément, croisa les mains sur la table après avoir tiré sur les manches ourlées de cuivre de sa tunique verte.
Si vous voulez le prendre ainsi, j'espérais plus de compassion de la part de confrères. Mais après un tel repas, j'ai plus envie de dormir que de donner dans la gaudriole.
Lassés de la conversation, Amos et ses deux amis se levèrent.
Nous allons montrer les folles nuits d'Hilda Karabanon. Ne vous en faites pas pour nous.
Peu enthousiaste, le jeune escrimeur n'osa pas refuser. Le connaissant, Nietzsche paria qu'il saurait s'en sortir.
Comme Nathan, dit-elle, je n'aspire plus qu'à dormir. Demain, nous aurons du pain sur la planche.
Elle se leva et Nathan l'imita. Très dignement, ils passèrent devant un massif intérieur de jasmin et sortirent de la salle. Dans le couloir, le sorcier déchu plongea les mains dans une petite cuve miroir dont il fit déborder de l'eau.
Merci, magicienne. Un lit douillet me semble le summum de l'extase ce soir.
Nietzsche acquiesça distraitement. Songeant à leur quartier de surplomb du monde, très confortable aussi, elle repensa à la pauvre petite Chardon, qui adorait se rouler en boule sur une peau de mouton à même le sol.
Demain matin, dit Nathan, le sorcier de chair André veut m'emmener dans son pavillon de travail, où nous étudierons ma triste condition. Je serai ravi d'avoir enfin quelques réponses.
Je me réjouirai de te voir redevenu toi-même, assura Nietzsche.
Après avoir souhaité un bon repas au sorcier, elle entra dans sa chambre, referma le rideau qui tenait lieu de porte, retira sa robe et passa la chemise de nuit qu'une servante avait apportée pour elle. Une fois couchée, elle savoura la fraîcheur des draps, écouta un moment le murmure de la brise dans la nuit, puis éteignit les lampes avec son don. Dans l'obscurité, elle se sentit très seule sans Chardon. Et sans Mra. La panthère du désert avait filé en voyant arriver Amos et ses deux amis. Ensuite, pendant le voyage vers Ildakar, Nietzsche avait senti qu'elle les suivait, mais sans se montrer. Depuis, elle ne l'avait plus revue. Dans un demi-sommeil, la magicienne laissa son esprit dériver à la recherche du lien très spécial qui l'unissait à Mra. La panthère, elle le savait, devait chasser dans les collines, non loin de la ville. Bientôt, elle sentit le malaise dans l'esprit de Mra. D'abord effrayée par les trois jeunes gens, elle était bouleversée parce qu'elle détestait cette grande ville et tous ceux qui l'habitaient. Ildakar était un endroit dangereux, un lieu de souffrance, plein de mauvais souvenirs. En rêve, Nietzsche avait partagé certains de ses souvenirs avec la panthère, et si elle avait identifié plusieurs symboles gravés sur diverses structures d'Ildakar, c'était parce qu'ils ressemblaient à ceux qu'on avait imprimés au fer rouge sur la fourrure de Mra. Un peu avant de s'endormir, la magicienne s'étonna du paradoxe qui lui traversa l'esprit. Alors que Mra rôdait dans la nuit, sur un terrain hostile, elle reposait dans un lit douillet après un délicieux banquet. Pourtant, des deux, c'était elle qui courait le plus de risques.